Donc je remercie Tristan Clémenceau et Camille Delon de venir à la tribune. Et eux vont nous partager leurs réflexions et leurs actions sur justement l'accueil des publics dans leurs établissements respectifs et comment ils analysent ce qui fait barrière et ce qui fait signe de bienvenue. Comment tout ça se travaille. Merci à vous deux. Tristan, je te laisse te présenter puisque je ne l'ai pas fait avant ta prise de parole et puis Camille, tu feras la même chose.
Bien sûr. Alors, je suis Tristan Clémenceau. Je suis responsable de la politique de l'accueil pour le réseau des 21 médiathèques de pleine commune. Alors, pleine commune, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un établissement public territorial, c'est-à-dire une intercommunalité qui regroupe 9 villes, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Aubervilliers, La Courneuve, Épinay, Lille-Saint-Denis, Villetaneuse et Pierrefitte, donc en Seine-Saint-Denis. Alors c'est un territoire où la population, en tout cas du point de vue des indicateurs sociaux, économiques, démocratiques et relativement à des moyennes régionales ou nationales, connaît de nombreuses difficultés, un taux de chômage important, beaucoup de familles monoparentales, un taux de pauvreté important et un revenu moyen par habitant plutôt bas globalement, un nombre d'étrangers important. Alors en soi ça c'est pas un handicap, mais ça peut l'être à partir du moment où on maîtrise mal, peu ou pas du tout le français. Mais c'est aussi un territoire qui a de nombreux atouts. Une population jeune, un tissu associatif assez dense, et puis à un niveau aussi moyen par habitant, un niveau de diplôme qui a tendance à augmenter ces dernières années. Et bien sûr, une diversité culturelle, linguistique, d'origine qui constitue une richesse, puisque source de diversité. Alors, lorsqu'on a proposé aujourd'hui de faire cette intervention sur accueillir les publics, signaux d'accueil et barrières systémiques, au début, j'étais un peu perplexe parce que, d'abord, barrière systémique, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et puis, signaux, barrières, je me suis dit que c'était plutôt pour la SNCF, mais en fait, pas du tout. Alors, j'ai regardé. Je voudrais d'abord, une petite précaution, j'aborderai pas, et je pense que toi non plus Camille, j'aborderai pas la question de l'organisation et des personnels. Ça a été dit, ça a été évoqué un petit peu auparavant, c'est-à-dire la question de la diversification du recrutement, de la formation, etc. Parce que j'ai vu que c'était prévu dans les interventions de cet après-midi. Alors les barrières systémiques, c'est quoi ? J'ai trouvé une définition assez, il me semble, alors je suis allé regarder sur le web, et j'ai trouvé une définition sur le site de la province du Manitoba au Canada. Alors, les Canadiens sont souvent précurseurs en la matière. Donc les barrières systémiques sont des politiques, des pratiques ou des procédures qui font en sorte que certaines personnes ont un moins bon accès que les autres ou sont exclues. Donc on voit bien là qu'il y a une idée d'ancrage au quotidien et d'une certaine normalisation des pratiques. C'est le côté système et qui constitue un obstacle à un accueil inconditionnel et inclusif. Alors selon moi, l'inclusion en fait a à voir avec deux choses. D'abord, donner une place à la diversité et pratiquer la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est un mot un peu fourre-tout, on ne sait pas toujours bien ce que ça veut dire, ça a été beaucoup employé à l'éducation nationale. Mais la bienveillance, c'est quoi ? Alors, moi, je dis souvent que c'est très lié à la notion de care, en fait, de care ou de caring. C'est-à-dire que ça met l'accent sur la prise en compte des vulnérabilités particulières des individus. Alors lever les barrières systémiques, selon moi, c'est d'abord un engagement. Alors un engagement politique, évidemment, un engagement des élus, mais c'est aussi un engagement des bibliothécaires, un engagement à connaître la population qu'on dessert dans sa diversité. C'est un engagement aussi à repérer et à critiquer les obstacles récurrents qui entravent l'accès aux bibliothèques, politiques, pratiques, procédures. C'est un engagement aussi à développer des stratégies pour éliminer ces barrières. Et c'est s'engager aussi à l'autocritique. Ça a été évoqué. Quelque part, ça nécessite aussi une certaine acculturation du bibliothécaire ou de la bibliothécaire. Car avant les pratiques, il y a d'abord les représentations. Et on en a pas mal parlé là, ce matin, les représentations que le bibliothécaire peut avoir du public desservi en termes de classe d'âge, sexe, classe sociale, culture, religion, ethnie, mais aussi les représentations du métier, les représentations de la lecture publique ou de la culture de façon plus générale. Parfois élitiste, je pense de moins en moins, mais, enfin j'espère, rectifiante ou faussement pluraliste. D'abord, il me semble que, avant de parler de diversité à proprement parler, il y a quelques fondamentaux d'un accueil inconditionnel. Je voudrais en citer trois. Il y en a d'autres, mais à mon avis, ce sont vraiment les trois prérequis indispensables à un accueil inconditionnel. La gratuité, l'inscription simplifiée et les horaires adaptés. Alors si la fréquentation des... je vais parler d'abord de la gratuité. Si la fréquentation des bibliothèques municipales et intercommunales est aujourd'hui presque toujours gratuite depuis quand même longtemps dans les faits. En fait, elle ne l'est en droit que depuis, et ça a été rappelé en introduction, que depuis la loi du 21 décembre 2021 sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique, dite loi Robert. On ne le sait pas forcément, mais c'est acté. Alors la politique locale peut toujours cependant limiter en fait, en tout cas, l'accès aux ressources des bibliothèques en exigeant une inscription payante, dont le montant est certes souvent modéré, et puis modulé selon les supports et les catégories d'habitants, mais il n'en constitue pas moins un obstacle à l'utilisation du lieu. En fait, la gratuité, là c'est vraiment... pourtant elle profite à toutes et à tous. La gratuité en quelque sorte rapporte. Et elle rapporte du monde en établissant une égalité de fait. Certains pensent même qu'en période de crise, et là je pense à la période Covid, elle a contribué à ralentir la baisse ou en diminuer la baisse de la fréquentation. Donc voilà. Et puis c'est aussi une façon de simplifier la démarche d'inscription. La démarche d'inscription, alors comme toute formalité administrative, bien entendu, elle peut constituer un obstacle important à l'accès aux bibliothèques. Potentiellement intimidante, évidemment, cette inscription pour les personnes qui maîtrisent mal ou pas le français, pour les personnes sans adresse fixe, pour les mineurs. Voilà. Alors, comment on la simplifie ? Bien, on peut par exemple exempter, on peut exiger un simple courrier, voire rien du tout, pour justifier de son adresse, mais pas forcément un justificatif de domicile au sens formel du terme. On peut exempter d'adresse des personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Alors évidemment, on peut parler des personnes sans domicile fixe, mais moi j'ai un exemple qui me vient en tête quand j'étais directeur des médiathèques à la Courneuve, de population rom qui fréquentait la médiathèque et qui n'avait pas non plus d'adresse fixe. On peut éviter d'exiger la présence physique d'un parent ou d'un tuteur légal pour l'inscription d'un enfant et simplement signer une autorisation qui parfois est signée certes par l'enfant lui-même, on peut s'en douter, Mais comme disait ma mère, il vaut mieux laisser courir un coupable que de punir un innocent. Je retiens, pour moi, je cite souvent cette phrase. Voilà des exemples. Enfin, des horaires d'ouverture adaptés, évidemment, au rythme de vie de la population, des services. Toujours connaître la population. Y a-t-il un public potentiel d'étudiants, ou plutôt familial, de nombreux commerçants, etc., etc. Évidemment, ces fondamentaux, là, que je cite, ils nécessitent une validation politique. Ils constituent des axes forts et généralement durables d'une politique culturelle. Et en fait, c'est en cela que la non-gratuité, le formalisme lors de l'inscription, où les horaires inadaptés constituent potentiellement des barrières systémiques. On revient politique, pratique et procédure. Alors, bien accueillir le public, c'est quoi? Je pense que c'est deux choses. C'est accueillir la diversité, mais c'est aussi prendre en compte les fragilités. Les deux sont souvent liés, mais pas toujours. Une fois que tout le monde est entré, inclure, c'est d'abord donner une place à la diversité pour reconnaître. Cette place donnée à la diversité est d'ailleurs consacrée dans l'article 1er de la loi Robert. Et on peut aussi se référer au texte qui a été cité tout à l'heure, au texte rassembleur des droits culturels, qui n'a pas inventé les droits culturels, mais qui les a rassemblés. En une somme, la déclaration de Fribourg qui a été adoptée en 2007. Donc il s'agit de montrer de la considération aux personnes dans leurs identités plurielles et relatives. Mais ça c'est important parce que, j'y reviendrai dessus à la fin, relative à un objet, les identités sont toujours relatives à un objet et susceptibles d'évolution, ne sont pas absolues. Les signaux d'accueil, là je reviens au titre un peu de la... Alors les signaux d'accueil, ce ne sont pas les signes. Ah, vous voyez, j'ai travaillé le sujet. Les signaux sont forcément visibles, entendus, dits, voire sentis. Donc c'est quelque part, c'est donner, en matière d'accueil, une place, je dirais, presque sensuelle aux minorités, aux marginaux, aux discriminés, en fonction de leur âge, de leur sexe. Religion, nationalité, langue, conditions sociales. Une place sensuelle, c'est-à-dire perçue par les sens. Alors, afficher la diversité. D'abord. Afficher la diversité, c'est la montrer. Et puis, c'est aussi en permettre l'expression. Dans la programmation, dans les collections, dans la communication, je vais prendre quelques exemples, des contes et lectures en langue autre que le français, et des contes et lectures bilingues, des intervenants de différentes nationalités, couleurs de peau, milieux sociaux, sexe ou orientation sexuelle, âge, etc. Des actions de sensibilisation aux situations de handicap, et puis dans les collections, des fonds en langues étrangères, des langues représentées et parlées sur le territoire. Je ne parle pas de l'anglais et de l'espagnol, qui évidemment sont parlés et représentés également, mais ne pas s'en tenir à ça. Des fonds LGBT, des livres en braille, des livres audio, et puis dans la communication, des documents rédigés dans d'autres langues que le français, en termes de mode d'emploi ou de flyers présentant la bibliothèque, les modalités d'inscription. Voilà, permettre à beaucoup de reconnaître, parce que quand on reconnaît quelque chose, bah c'est rassurant. Vous savez, quand on va dans un pays étranger, et que, par exemple, on va sur un marché, une place de marché, on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on ne maîtrise pas les coutumes, les techniques de négociation, etc. Par exemple, on peut être à l'aise avec ça, on n'est pas forcément. Mais on va dans un supermarché et tout de suite, on ne se sent plus à l'aise parce qu'on reconnaît, c'est rassurant. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais en tout cas, ça permet de comprendre le principe. Ça met aussi dans de bonnes dispositions pour échanger. Apprendre, monter en compétence et après construire un commun. Et quel meilleur commun en fait que la maîtrise du français, le fait de parler en français, puisque ne pas le maîtriser constitue forcément un obstacle. Construire un commun au-delà des identités particulières, évidemment. Contribuer à réduire les fragilités, ça c'est le deuxième point pour bien accueillir. Toujours dans la programmation, les collections, les services proposés, mais l'aménagement également, les activités de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les actions de sensibilisation à la diversité des orientations sexuelles, toujours, les ateliers de conversation en langue française pour réduire la fracture linguistique. Et des initiations au numérique, à l'informatique, pour réduire la fracture numérique. Dans les collections, des documents faciles à lire, à voir, des livres en gros caractères, des livres audio. Une signalétique visible, simplifiée. Dans la communication, des documents de communication faciles à lire et à comprendre. FALC, les fameux FALC, par exemple, mais en version papier ou numérique. Et puis, évidemment, dans les services proposés, des claviers adaptés aux personnes malvoyantes ou aveugles, aux enfants, des boucles sonores, des chemins podotactiles, des choses que vous connaissez déjà. J'arrête là le catalogue. Je voudrais mettre l'accent en fait, sur un exemple qui me paraît emblématique d'une politique inclusive dans les médiathèques de pleine commune. En fait, dans le réseau, on a beaucoup travaillé autour des langues. C'est quelque chose, on promeut énormément les langues. Il y a on dit souvent qu'il y a, je ne connais pas le chiffre exact, mais plus de 120 nationalités différentes sur le territoire. Vous imaginez la diversité et en même temps la richesse, puisque ces langues peuvent être effectivement source porteuse de diversité culturelle, mais peuvent aussi être, quand on maîtrise une langue autre et pas le français, porteuse d'un... Enfin, constituer un véritable handicap. Alors, il y a un dispositif qui a été mis en œuvre entre 2018 et 2020 qui s'appelle Imaginaire Imagier. Certains le connaissent peut-être. Et c'est là que je vais parler de ces petits objets là sur l'estrade. Alors, le dispositif Imaginaire Imagier, mené sur 3 ans, c'est quoi ? C'est d'abord une relation et un parcours, une mise en relation. Une mise en relation entre des publics allophones et leurs enfants, ou des familles, les bibliothécaires, des partenaires, centres sociaux principalement, le Salon du Livre et de la Presse de Jeunesse, quand même, puisque c'est cette association qui a basé à Montreuil, qui a énormément porté le projet, qui a organisé des formations pour l'ensemble des partenaires, mis à disposition des malles de documents. Imaginaire imagier, évidemment, vous comprenez, c'est qu'on se base d'abord sur les imagiers. L'idée, c'est de susciter l'envie d'apprendre le français, mais en partant, en fait, des langues maternelles. Des langues maternelles parlées sur le territoire. On s'est rendu compte que... l'école, la société plus globalement, et les intéressés eux-mêmes, en fait, ne valorisent pas trop, les langues maternelles. Donc, on a pris le contre-courant, et puis on est parti de ça. C'est ça aussi, l'empouvoirment, c'est un peu ça aussi, c'est partir de ce que les gens sont et non pas de ce qu'on voudrait qu'ils soient, en fait. Même si l'objectif final, c'est aussi de donner envie d'apprendre le français pour construire du commun. Alors, il y a tout un parcours avec des ateliers, des formations pour l'ensemble des participants et des artistes, puisque là, dans les objets que vous voyez, ont contribué Matisse, Pascal Estelon, Joël Jolivet, que vous connaissez peut-être, certainement. Et pour aboutir à la fin d'ailleurs, donc ce sont les productions finales qui ont été réalisées avec les participants à ce dispositif. Et notamment un mapajo que vous verrez, qui est un peu la synthèse voilà, de l'univers des 3 artistes et de ce qui a été... Merci. un imagier du vivant multilingue. Voilà. C'est un jeu de cartes, en fait, avec, qu'on peut exploiter de différentes manières. Il faut savoir que le projet IMIM, il a été soutenu par la politique de la ville. C'est important de le préciser. Parce qu'on s'est rendu compte, alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais qu'en 2015-2016, il y a eu une ouverture du point de vue dans la politique de la ville, où on est passé en fait d'un... où la politique de la ville était principalement axée sur l'apprentissage du français, en tout cas pour ce qui concerne le sujet. On est passé de l'apprentissage du français à une ouverture aux diversités, ce qui a permis du coup de solliciter le dispositif politique de la ville pour mettre en place ce dispositif. Aujourd'hui, le MAPAJO et ses objets sont utilisés, encore utilisés dans l'ensemble des médiathèques de pleine commune. Valoriser les langues maternelles, au-delà d'un projet, quand bien même il a duré 3 ans, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire de façon récurrente. Donc, je ne vais pas détailler, mais on a chaque année, en février, on organise une semaine des langues, qui a permis d'ailleurs d'ancrer certains partenariats qui avaient été élaborés dans le cadre du dispositif Imaginaire Imagier. Donc on trouve des ateliers de traduction pour public allophone, des ateliers de découverte d'une langue, roumain, portugais, bengali, serbe, chinois, bambara, lingala, hongrois, allemand, espagnol, italien, kabyle, arabe, anglais, créole, martiniquais, wolof, japonais, langue des signes française, etc. Vous voyez, c'est divers. Des créations d'affiches de mots intraduisibles aussi. Ça, c'est un atelier intéressant qui va être proposé là, lors de la semaine des langues. Comment ? Alors, en fait, l'idée, c'est... il y aura un travail, en fait, calligraphique, en tout cas, sur ces mots intraduisibles. Mais on pourra y revenir tout à l'heure, si vous voulez. Oula ! Bon. Je ne parlerai pas de la mallette fabulala, etc. De toute façon, vous aurez à disposition l'ensemble de l'intervention. Je vais conclure. Alors, en guise de conclusion, évidemment, bien accueillir et accueillir la diversité, c'est d'abord un engagement. Je l'ai dit au début, c'est d'abord un engagement politique, un engagement du point de vue des élus, un engagement des bibliothécaires, et bien sûr, comme tout engagement, ça comporte des risques. D'ailleurs, le sujet, c'est la bibliothèque à l'épreuve des diversités, hein, aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on peut aller dans la promotion de la diversité, dans la lutte contre les barrières systémiques. Je vais prendre un exemple. Le jeu vidéo. C'est un loisir qui est assez genré en bibliothèque, quand même. On s'en rend compte. Alors, j'ai vu dans certaines bibliothèques qu'on pouvait prévoir des créneaux horaires uniquement pour les filles. Bon. Ça se discute, en tout cas. Je pose une question. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas... Vaut-il pas mieux travailler d'abord avec un groupe de filles qui peut ensuite être force de proposition et animer des séances mixtes, par exemple, force de proposition sur les contenus. On pourra en débattre. En tout cas, j'ai vu aussi une bibliothèque dans notre réseau qui procédait de cette manière. Les risques aussi, c'est bien sûr attention au culturalisme, à l'essentialisation, à une vision figée des identités, à éviter l'altérité radicale, même si vous êtes lévinassien. Et du coup, j'ai enchaîné, je voudrais juste terminer par une petite histoire. qui est tirée de la tradition juive. Si je me souviens bien, ça devait être dans un livre « Méditations érotiques » de Marc Alain Wachnins, qui était un essai sur Emmanuel Lévinas, justement. Alors, je ne m'en rappelle plus exactement, mais ça doit être à peu près ça. C'est un enfant qui voit danser son grand-père et qui lui demande « Mais grand-père, pourquoi danses-tu ?» Et le grand-père lui répond « Vois-tu, mon enfant, l'homme est comme une toupie. Sa dignité, sa noblesse, il l'acquiert dans le mouvement. L'homme se fait de se défaire, n'oublie jamais cela. » Voilà. J'étais un peu long, hein, mais je vais passer la parole à Camille.
C'est simple d'enchaîner après ça. Merci Tristan. Alors, moi j'ai pas de jouet, donc j'ai un PowerPoint. Ah.
Non.
Je sais pas.
Présente-toi.
Alors, je suis Camille Delon. Je suis chargée de développement des publics du champ social à la. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la diversité accueillie à la BPI avec un focus sur la présence des publics du champ social. Je vais vous parler de la manière dont on travaille à l'accueil de ces publics et notamment avec la mise en œuvre, enfin l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'accueil des publics du champ social. Et puis, merci Renaud. Et je vous donnerai, enfin je ferai un ou deux retours d'expérience sur des actions qu'on a mises en œuvre. Alors d'abord, je vous propose d'observer la diversité des publics présents à la BPI. On pourrait imaginer que des freins symboliques et réels, il y en a un certain nombre pour rentrer dans la BPI. Je pense notamment à le fait que ce soit une institution culturelle nationale, à l'architecture monumentale du Centre Pompidou qui peut être un peu impressionnante, le fait que ce soit collé à un musée, enfin voilà, tout ça sont des barrières symboliques assez fortes qui pourraient décourager l'entrée dans la bibliothèque. Et puis après, il y a des barrières réelles, enfin des freins réels. Je pense à la file d'attente qui peut rebuter parfois, les contrôles vigipirates, les portiques à l'entrée, les différentes entrées qu'il faut traverser pour arriver jusqu'à la bibliothèque. Donc voilà, c'est pas un chemin qui paraît évident. Et on voit aussi sur les visuels en fait que j'ai mis là, ça montre quand même que c'est un lieu particulier et que voilà qui pourrait impressionner. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de fréquentation, alors c'est pas les chiffres de fréquentation 2022, c'est les chiffres publiés en 2022 par le service études et recherches de la BPI, donc c'est d'après l'enquête barométrique qui a été réalisée en 2021, donc un peu après la crise sanitaire. On voit qu'on est à 1 124 475 000 entrées. Donc c'est un chiffre considérable. Ça, vous avez le détail. En gros, 3 500 entrées quotidiennes. On est presque revenu à nos chiffres d'avant la crise sanitaire. Donc les publics sont présents. Là, on peut voir, ça donne une idée de la composition sociologique des publics, donc une forte présence, enfin, les trois quarts des publics sont des publics étudiants, avec évidemment des disparités sociales au sein des étudiants. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les indices de diversité des publics, puisqu'on voit que la moitié des usagers ne parlent pas le français au foyer, qu'il y a un tiers des étudiants qui résident en banlieue. Enfin, des étudiants résidents en banlieue qui viennent de Seine-Saint-Denis, donc quand même le département le plus pauvre d'Île-de-France. Et 64% des étudiants qui habitent en Seine-Saint-Denis déclarent ne pas parler le français au foyer. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte quand on met en place les politiques d'accueil à la BPI. Et puis alors là, on a une donnée intéressante, 4 personnes déclarées de sans domicile. Alors c'est pas une donnée qui reflète la réalité, parce que c'est la première fois que le service études et recherches inclut cette demande en fait dans leur enquête, mais ça permet de rendre visibles ces personnes. Donc ça, voilà, on sait que le chiffre est bien plus élevé en réalité, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis on a aussi 2% des usagers qui déclarent vivre en foyer. Donc quand on traduit ces pourcentages en chiffres, par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, les 3500 entrées quotidiennes, ça fait quand même du monde. Et donc ces personnes, il faut les accueillir. Alors si ces publics sont présents, c'est aussi parce que la BPI envoie un certain nombre de signaux. Là, je rejoins ce que disait Tristan, de signaux d'accueil, malgré voilà, les freins que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Ces signaux, c'est d'abord la localisation, l'emplacement de la BPI, très central dans Paris, à la croisée de tous les RER qui arrivent de banlieue. Donc, évidemment, c'est très facile de s'y rendre. La gratuité, donc ça rejoint ce que tu évoquais. Bon, les horaires d'ouverture, 64 heures d'ouverture par semaine sur 6 jours sur 7, donc ça fait 311 jours d'ouverture annuelle sur l'année dernière. Le fait que la bibliothèque soit ouverte les jours fériés, par exemple, jusqu'à 22 heures, un 1er janvier jusqu'à 22 heures, forcément. Voilà. Donc ça permet à des publics qui n'ont pas d'autres lieux d'accueil de venir, notamment le mois d'août aussi, où il y a beaucoup de structures sociales qui ferment. On observe à cette période-là une forte présence des publics les plus en situation d'exclusion. Le fait qu'il n'y ait pas d'inscription, alors il n'y a pas d'emprunt, donc évidemment ça facilite le fait de ne pas proposer d'inscription, mais enfin on ne demande pas de pièce d'identité, ni de carte, rien. Donc forcément ça permet aussi à certains publics de ne pas se poser de questions et de venir plus facilement. Et puis ensuite, les espaces de la bibliothèque, les services, j'y reviendrai un peu plus tard, les collections actualisées, et on travaille actuellement à la mise en place d'un espace et de collection Falck. Alors il y a donc, tous ces éléments, ça a pour conséquence une forte présence des publics du champ social. La BPI fait partie de la mission Vivre Ensemble, qui définit les publics du champ social comme étant les personnes ne pouvant pas ou ne s'autorisant pas à fréquenter la bibliothèque. Dans le cadre de la BPI, c'est pas tout à fait ça, puisque je viens de dire que justement il la fréquentait. Donc moi, ce que j'entends par public du champ social, ce sont les personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité sociale ou économique qui fréquentent la bibliothèque, mais aussi, enfin de manière individuelle, mais aussi dans le cadre d'un accueil de groupe avec une structure sociale. Ça inclut aussi ceux qui ne s'autorisent pas à la fréquenter et qu'on a pour mission d'aller chercher. Mais le lien en fait entre tous ces publics, ce sont les difficultés économiques. C'est vraiment ce qu'on peut donner comme dénominateur commun. Pour favoriser l'accueil de ces publics, on a travaillé à l'élaboration d'un plan d'action. Et on a commencé par par recenser les différents publics du champ social qui fréquentent la bibliothèque. On s'est basé sur plusieurs éléments. D'abord sur les enquêtes du service études et recherches de la BPI. Ensuite, pour des données qualitatives, on a repris le travail qui avait été fait par Serge Pogam et Camilla Giorgetti il y a 10 ans maintenant. Donc l'enquête de terrain qui s'appelle Des pauvres à la bibliothèque, qui est en fait une enquête de terrain sur la présence des publics sans domicile au sein de la BPI. Donc c'est très riche, il y a beaucoup d'entretiens. Et ça nous donne, c'est une mine d'or en termes de données qualitatives pour connaître ces publics qu'on a du mal à appréhender. Et puis on s'est aussi basé sur l'observation qu'on a des publics quand on est en service public, puisque même si c'est une très grande bibliothèque, on connaît bien nos habitués malgré tout, et on connaît leur situation pour certains, pas pour tous évidemment, puisqu'il y en a certains qui cachent leur situation ou qui viennent justement à la BPI pour être anonymisés, mais il n'empêche que pour d'autres, on connaît quand même leur situation. Je n'ai pas de chiffres à donner sur la répartition et la présence de ces publics, mais cette typologie a été importante pour réfléchir ensuite aux services qu'on propose. Je ne détaille pas. Alors, le plan d'action qu'on a mis en place, il sert à deux choses. On l'a mis en place d'une part pour favoriser l'accueil des publics du champ social à l'intérieur de la BPI et pour permettre une bonne cohabitation entre les différents publics, et puis aussi pour que les publics qui ne fréquentent pas la bibliothèque puissent nous identifier et utiliser le lieu comme lieu ressource et boîte à outils, puisque c'est quand même à ça qu'on sert. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des objectifs, parce qu'ils sont détaillés et ils sont portés par des actions concrètes. Mais là, vous pouvez voir quand même les objectifs principaux qu'on s'est fixés. Donc soutenir ces publics fragilisés. Alors ça paraît un petit peu évident, mais en fait c'est décliné par un certain nombre d'actions concrètes sur le terrain, donc des permanences, des ateliers. Ce qui me semble intéressant dans les objectifs, c'est qu'on met en axe prioritaire l'apprentissage du français, la recherche d'emploi, la réinsertion professionnelle, les médiations autour de la programmation culturelle, et surtout un des axes les plus importants de ce plan d'action, c'était de travailler sur l'accueil des publics sans domicile, donc les personnes en situation d'exclusion économique et sociale, donc en d'autres termes les personnes qui vivent dans des conditions très précaires et qui sont pour la plupart à la rue. Voilà. Et alors dans les publics ciblés, donc ça reprend la typologie des publics, et on a ajouté les personnes sous main de justice, puisqu'on travaille avec plusieurs centres pénitentiaires, notamment autour de la programmation culturelle. Donc là, on se rend dans les prisons pour présenter la programmation et travailler autour de cette programmation. Alors, l'offre de la BPI à destination des publics du champ social, donc on a un certain nombre de permanences, d'ateliers, d'accueil spécifique et de médiation. Donc je ne vais pas les détailler, parce qu'en plus, pour la plupart, c'est un certain nombre de choses que vous connaissez et qui sont maintenant assez fréquentes de retrouver en bibliothèque. Je pense aux écrivains publics, aux permanences d'aide individualisée aux outils informatiques. Ça, c'est des choses qui sont assez répandues. Je parlerai un petit peu plus tard de notre partenariat avec La Cloche, donc je peux simplement peut-être préciser ce que sont peut-être deux permanences. La première, l'accès aux soins pour toutes et tous. Donc là, on travaille avec une association qui s'appelle Migration Santé, et on propose une fois par mois donc la présence de cet acteur qui accompagne les publics qui en ont besoin vers des démarches de soins. Donc c'est pas une consultation médicale, mais l'idée c'est de aider les personnes à monter leur dossier de CMU, AME, et d'orienter vers les structures de soins. C'est une permanence qui est fréquentée essentiellement par des personnes qui sont soit étrangères, soit en situation irrégulière, soit étudiantes. La permanence écoute anonyme qui existe et qui est portée par l'association La Porte Ouverte. Donc je sais que ça existe dans d'autres bibliothèques, puisqu'il me semble qu'à Toulouse ils ont aussi cette permanence. Donc là on propose un temps d'écoute en fait pour les usagers, donc c'est un temps individuel, c'est animé par des bénévoles qui sont formés à l'écoute, et c'est un temps où les personnes présentes à la bibliothèque peuvent venir parler des problèmes qu'ils rencontrent. Voilà, c'est un lieu où on va les écouter en toute bienveillance. C'est une permanence qui a été mise en place il y a 4-5 ans à la BPI, et qui a été mise en place parce que il y a un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés ou qui sont en souffrance à la bibliothèque. On peut observer tous les jours, et les bibliothécaires sont parfois un peu démunis face à ces personnes qui viennent et qui s'expriment. Il y a une limite en fait, à un moment donné, quand on est en service public, on peut arriver un peu au bout de ce qu'on peut faire pour ces personnes. Donc ça nous semblait intéressant de leur proposer un lieu d'accueil dédié. Et donc cette permanence, elle a lieu toutes les semaines sur un créneau de 6 heures. Donc on peut orienter vers cette permanence. Les ateliers, je ne vais pas détailler, parce que là, c'est des ateliers qu'on trouve aussi maintenant en bibliothèque de manière assez fréquente. Ateliers de conversation autour de l'emploi, les ateliers numériques. L'atelier Bon Plan à Paris, c'est un atelier qu'on a remis en place il y a 2 ans, qui est préparé et animé par des bibliothécaires, où on propose, alors on avait en tête, enfin on ciblait les étudiants, l'idée c'est de proposer des ressources et des lieux en fait pour vivre à Paris sans trop se ruiner. Donc on propose des adresses sur où manger gratuitement ou pas trop cher. On inclut aussi les démarches pour faire pour entrer dans les restaurants sociaux par exemple. Donc on a vraiment à la fois les bons plans mais aussi toutes les démarches qui permettent de bénéficier des aides sociales. Voilà, comment s'habiller à moindre coût, comment profiter de l'offre culturelle parisienne, faire du sport, des choses comme ça. Donc on ciblait les étudiants, mais c'est ouvert à tous les publics. Il y a une annonce micro qui est faite au moment de l'atelier et ça permet au public de se mélanger. Donc il y a principalement des étudiants, mais il y a aussi des retraités, il y a parfois des actifs qui viennent parce qu'ils entendent l'annonce micro. Donc ça donne un mélange de public assez, assez chouette. Il y a des numéros de téléphone qui s'échangent, des gens qui se revoient en dehors, donc c'est plutôt sympathique. Et c'est aussi l'idée qu'on avait en tête, c'était vraiment que les gens puissent se rencontrer et qu'on soit pas là juste pour donner des ressources, mais aussi pour qu'il y ait du lien qui se crée, comme dans les ateliers de conversation, puisque c'est voilà, aussi une des missions principales et l'intérêt du lieu, c'est ça. Voilà, les accueils spécifiques, donc ça c'est pareil, c'est des choses qui sont assez fréquentes maintenant en bibliothèque. Et puis des médiations, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je vais peut-être parler de notre partenariat avec l'association La Cloche. Donc là, je voudrais faire un petit focus sur l'accueil des publics sans domicile, puisque c'est vraiment un des axes prioritaires du plan d'action pour l'accueil des publics du champ social que j'évoquais tout à l'heure. Quand on a mis en place ce plan d'action, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille en direction de ces publics. On s'est demandé quels services pourraient être utiles à ces publics. On a d'abord pensé à un service d'orientation sur des démarches sociales, etc. Mais c'est une idée qu'on a vite laissé tomber parce que déjà c'est un travail qui aurait probablement été vain et qui est fait par d'autres acteurs sociaux qui le font certainement très bien. Et puis c'est pas forcément ce que les publics sans domicile viennent chercher à la BPI quand ils viennent chez nous. Donc on a très vite abandonné cette idée. On s'est mis en quête d'un partenaire parce que sur ce genre de questions, c'est pas possible de travailler tout seul, il faut se faire aider par des personnes qui ont une expertise de terrain notamment. Donc on a exclu de travailler avec le SAMU social parce qu'on voulait sortir un peu de cette image-là aussi, on voulait sortir de l'aspect social en tout cas. Donc on a rencontré cette association, La Cloche, qui est une association nationale qui a pour mission de créer du lien avec et pour les personnes sans domicile. Donc concrètement, ils vont dans la rue à la rencontre des personnes, ils font des maraudes en fait, mais au lieu de distribuer des repas, ils vont discuter avec les gens et ils font le lien entre ces personnes et la vie d'un quartier. Ils leur proposent en fait, alors ils peuvent simplement proposer de discuter, voilà, ils s'assoient, ils discutent, un temps d'échange. Et quand il y a un lien qui est créé avec la personne, ils leur proposent de participer aux activités d'un quartier, donc ils se mettent en relation avec les associations de quartier, ça peut être un jardin partagé, tout ce qui anime en fait la vie d'un quartier. Ils ont aussi des actions propres, ils font beaucoup de choses, il y a plusieurs ateliers, ils font un journal, ils ont une radio, enfin voilà. Donc petit à petit en fait l'idée c'est vraiment que les personnes sans domicile puissent reparticiper à une vie sociale par ce biais du lien. Donc ça nous a semblé intéressant de travailler avec La Cloche parce qu'on se retrouvait un peu sur les missions, notamment sur cette idée de renforcer le lien. Donc on a mis en place une permanence il y a presque 2 ans maintenant. Une fois par mois à la bibliothèque, l'association est présente et les intervenants vont à la rencontre des publics sans domicile qui le souhaitent. La présence des intervenants de La Cloche est signifiée par un grand kakémono avec le logo, parce que souvent les personnes sans domicile connaissent cette association, donc il y a un immense kakémono avec La Cloche à l'entrée, donc ça ils savent qu'ils sont présentes. Et puis ils connaissent aussi souvent les intervenants. C'est pas évident, ça n'a pas été évident pour les intervenants parce que intervenir dans la rue et dans une bibliothèque, c'est pas du tout la même chose, puisque les personnes sans domicile qui viennent à la bibliothèque, elles viennent pour faire quelque chose. Et le principe de La Cloche, c'est de ne pas déranger les personnes qui sont occupées. Donc le lien n'a pas été évident à faire. On a aussi fait une annonce micro qui signale la présence de l'association dans la bibliothèque. Donc on a travaillé le texte en évitant évidemment d'utiliser des mots comme sans abri, sans domicile. Enfin voilà, c'était, on a exclu ce champ lexical, mais quand même de faire en sorte que les personnes concernées puissent se reconnaître sans être stigmatisées. Plutôt en insistant sur la présence du partenaire, en donnant des informations sur le partenaire. C'est une permanence qui a trouvé son public tranquillement, c'était pas évident, mais qui a quand même permis de rencontrer faire du lien avec du public, notamment avec des gens qu'on connaissait pas, qui étaient déjà présents à la bibliothèque depuis longtemps, mais qui connaissaient la cloche par ailleurs, et qui, en voyant leur présence, sont allés leur parler. Voilà. Donc ça, on a pu appréhender ces publics de cette manière-là. Là, ça fait presque 2 ans, on a fait le bilan avec l'association. On va faire évoluer notre permanence, c'est-à-dire qu'on va plus la faire de manière mensuelle, on va en faire moins, mais on va les faire sur des créneaux élargis, incluant notamment la fermeture de la bibliothèque, enfin idéalement en incluant la fermeture, puisque c'est un temps aussi très particulier. Et puis quand on est en service public, on voit en fait certains publics qui sont avec leur sac et puis qui traînent un peu à la fermeture, et on sait très bien pourquoi ils traînent, parce qu'il n'y a rien derrière. Donc ça peut être intéressant aussi de prévoir ce temps de permanence au moment de la fermeture. Alors, on a aussi travaillé avec la cloche à l'accompagnement des collègues, puisque la cloche fait des formations, et on a proposé aux bibliothécaires c'est plus des journées de sensibilisation d'ailleurs que des formations. Ce qui est intéressant avec cette association, c'est qu'ils travaillent aussi avec les personnes concernées, donc qui interviennent soit dans les permanences, soit dans les formations. Donc c'est pas que des personnes qui parlent à la place d'eux, mais c'est aussi les personnes concernées qui expliquent ce que c'est que leur quotidien et qui donc précisent leurs attentes. Donc pour nous, c'est très intéressant aussi. Ça a permis aux collègues de poser des questions, de changer leur regard aussi, de casser certains clichés. Donc c'était vraiment intéressant. Et on va continuer à travailler avec la cloche sur une suite en fait à ces formations, pour pas qu'il y ait juste une formation qui soit faite et puis ensuite on n'en parle plus, mais au contraire pour qu'il y ait régulièrement, peut-être un an après ou un an et demi après, des temps qui soient prévus pour échanger, peut-être revenir sur des situations concrètes que les collègues ont pu rencontrer sur le terrain. Voilà, en tout cas qu'il y ait un échange qui se poursuive. J'ai plus de temps, c'est ça ?
C'est bon.
Bon, je parlerai pas des médiations qu'on propose pendant le festival Effraction, tant pis, mais si vous avez des questions sur ces questions-là, tout ce qui concerne la programmation culturelle et comment on l'inclut dans le travail d'inclusion des publics du champ social, ça, on le fait en tout cas. J'en dirai pas plus, mais voilà.
Merci beaucoup. Merci surtout d'avoir si scrupuleusement respecté le temps et de laisser 5 petites minutes pour les questions-réponses avant que nous ne libérions nos régisseurs, nos interprètes en langue des signes française, et que nous allions tous déjeuner. Alors, Franck ? Non.
Oui, bonjour. Merci des interventions. Je suis Jean-Pierre Lévy, je suis censé être votre grand témoin. Avant d'intervenir, je me pose une question sur la question des moyennes et des valeurs de référence. Alors, la suite des interventions les unes et les autres est intéressante parce que on a des interventions qui se positionnent par rapport à des valeurs nationales et des populations nationales. Puis on avait l'intervention sur pleine commune, sur le 93, on aurait pu la faire aussi sur Est Ensemble, où du coup la diversité dans Est Ensemble, dans pleine commune, c'est une diversité qui correspond aux valeurs qui ne sont pas des valeurs de référence de la BPI. C'est intéressant parce que dans la BPI, dans votre enquête, vous avez isolé les populations des 93 comme des populations diverses, alors que la population des 93, quand on la regarde dans le 93, les populations diverses, c'est justement les populations qui ne vont pas à la BPI. Et donc, comment on joue sur, sur qu'est-ce qui fait référence et qu'est-ce qui fait diversité?
Oui, alors moi c'est vrai que je suis allée un peu vite hein, sur, sur ces chiffres. Enfin, c'était vraiment pour donner une idée. Je ne sais pas si Christophe est là. Christophe Evans du service études et recherches, parce qu'il aurait pu préciser. Je suis allée très vite, vraiment pour plutôt, enfin voilà, pour donner une idée de qui sont les publics. Évidemment, dans, dans les étudiants qui viennent ou les personnes qui viennent du 93, en réalité, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas de quel milieu ils sont. Et voilà, c'était. Mais ça, ça permet quand même de se faire une idée de, du mélange, en tout cas des publics. Voilà, c'était. Mais je suis allée très vite là-dessus. Je sais, mais je pense que tu peux peut-être.
Vous, quand vous dites qui fait référence, ce sont les sources, c'est ça ?
Ma question, c'est ce qui fait diversité dans le 93,
oui.
C'est ceux qui ne sont pas divers à la MPI. Parce que si on prend une population homogène, du 93 qui fait référence, c'est en fait le 93, c'est les populations diverses de ceux qui ne sont pas dans le 93. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est quels sont, où se situe la diversité? Parce que la diversité dans le 93, c'est la moyenne de ceux qui sont divers ailleurs.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Puisque dans le 93, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de populations pauvres, etc. Ouais. Donc, toutes ces populations, c'est la moyenne de la population du 93. Donc, c'est vos valeurs de référence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire diversité dans le 93? C'est ceux qui ne sont pas dans le 93, les populations qui vont ailleurs, ou est-ce que, et dans ces conditions, pourquoi ces populations du 93 seraient des populations diverses à la BPI, alors qu'elles ne sont pas diverses dans le 93, puisque c'est la population majoritaire?
Ah bah. Moi, j'assume en disant quand même que la population qui fréquente, en tout cas pour ce qui concerne les bibliothèques de pleine commune, c'est une population qui est diversifiée. Hein, en termes, alors moi, là, j'ai mis l'accent sur les langues notamment, parce que c'est une population. La langue, c'est quand même un gros, du coup, une diversité culturelle. La langue étant quand même un vecteur de culture assez puissant. Donc une diversité vraiment de. Culturelle, d'origine, donc avec aussi des idées, des pratiques différentes, donc une véritable altérité finalement entre. Du coup, on a enfin de fait, c'est je pense le public qui fréquente en tout cas les bibliothèques. À pleine commune, c'est une population diversifiée, moins homogène que, je sais pas moi, je suis de Lorient, okay, la bibliothèque de Lorient, bien qu'il y a quand même, il y a aussi une certaine diversité, mais là on va, en tout cas, là, cette diversité à pleine commune, c'est vraiment sur les origines, la langue, la culture, culture d'origine, maternelle et paternelle, voilà. C'est tout ce que je peux dire.
Merci. Ça sera la dernière question.
J'ai une question pour Camille Delon. Je voulais juste savoir finalement si la cohabitation entre le public sans domicile et le reste des publics se passait bien. Parce que du coup, je me souviens d'une expérience il y a quelques années où finalement il y avait une personne sans domicile, voilà, sans domicile, qui était installée tranquillement dans un coin de la bibliothèque, et certaines personnes sont venues vers nous, les agents, pour nous signaler que effectivement cette personne dégageait une odeur assez forte, et on a fait l'erreur d'aller voir la personne, donc pour lui demander de se déplacer ou carrément de sortir, je me souviens plus vraiment. Donc voilà, c'était par rapport à ça.
Alors. Quand on lit l'enquête de Pogam et Camilla Giorgetti, on se rend compte que dans les publics sans domicile, déjà, il y a plusieurs types de publics. Il y a ceux qui sont visibles et ceux qui ne sont pas visibles. Ceux qui ne sont pas visibles, la cohabitation, on suppose qu'elle se passe bien, puisqu'ils ne sont pas visibles. Donc voilà, on n'en entend pas parler. Ceux pour qui c'est plus visible, c'est ceux qui sont vraiment en rupture. Et là, c'est ce que vous évoquez, c'est ceux qui viennent avec des sacs, qui sont habillés avec des vêtements très sales et qui parfois, voilà, contre des problèmes d'hygiène assez importants. Moi, je dirais que la cohabitation, globalement, elle se passe bien. C'est juste que quand il y a un incident, il marque. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas tous les jours. Ça arrive de temps en temps. Mais quand, si on rapporte ça à la fréquentation et à la masse de public accueilli, en réalité, la cohabitation se passe bien. Mais on fait ça pour que, justement, ça continue à bien se passer. Et faire en sorte aussi de mieux savoir gérer les incidents comme celui que vous évoquez, qui arrive souvent à la BPI, mais ailleurs, parce que c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Donc la question de l'hygiène et de la mauvaise odeur d'une personne, et qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà.
On est obligé de s'arrêter, l'heure a tourné. Merci à tous nos intervenants, merci à vous tous. Merci à nos interprètes en langue des signes française, Frédéric et Annick, puisque c'est d'autres qui les remplaceront cet après-midi. Je vais juste vous demander de donner rendez-vous ici à 14h. Je vais vous demander d'être ponctuel. Voilà, parce qu'on est comme ça. Et donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup.